Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Né en 1944 dans l'Arkansas, James Sallis a été, entre autres, poète, éditeur d'un magazine de science-fiction, critique musicale et traducteur de nombreux textes français, russes ou espagnols, parmi lesquels l'un des romans les plus expérimentaux de Raymond Queneau, Saint-Glinglin. Mais c'est aussi, et peut-être avant tout, l'auteur de romans noirs, parmi lesquels les 6 livres mettant en scène le privé Lou Griffin, ou encore Drive, l'histoire de ce chauffeur cascadeur devenu célèbre par la grâce de son adaptation au cinéma. En 2002, James Sallis était invité par le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo à présenter sa biographie de l'écrivain noir américain Chester Himes, alors tout récemment paru aux éditions Rivage. Occasion qui fut saisie par François Angelier pour le recevoir dans son émission Mauvais Genre, enregistrée en public au festival Malouin et diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mai 2002.
Et pas d'erreur, c'est Mauvais Genre. Mauvais Genre qui recevra en ce samedi 18 mai un des plus étonnants voyageurs accueillis cette année à Saint-Malo. J'ai nommé l'écrivain américain James Sallis. Jugez-en, traducteur de Queneau et de Marcelin Plenet, critique de science-fiction aux côtés de Michael Moorcock, poète, guitariste de jazz, et pour mettre un plomb sur le gâteau, auteur de Polar chez Gallimard. Une situation qu'il partage avec le sujet de son dernier ouvrage, un maître-livre consacré à Chester Himes. Dire Himes, dire sa vie, sa rage et ses amours, dire ce qu'il représente pour les Afro-Américains, dire son combat par et pour l'écriture, tel est l'enjeu de cet ouvrage qui lui a demandé 2 ans d'immersion dans de la véritable lave en fusion. Sallis, Himes, c'est ce soir dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de Mauvais Genre. Merci également au public d'Étonnants Voyageurs d'être avec nous pour rencontrer James Sallis. Bonsoir, James Sallis.
Merci.
Première question. Tout va bien? Vous êtes reposé? Je crois que le train a eu un peu de retard. Vous avez un peu respiré, tranquille, détendu. Oui, tout va bien. Demandez à notre traductrice, Madame Bourbon.
I'm fine, thank you.
Avec moi pour interroger James Sallis, Jean-Yves Bochet.
Bonsoir.
Et puis avant donc de se lancer dans cette exploration de l'univers de Sallis et de Himes, une nouvelle que l'on a appris aujourd'hui même, Jean-Yves, c'est le décès de
nouvelle.
Pierre Signac. Qui continuait de publier aux éditions Rivage, mais qui s'était fait quand même assez discret, qui vient de disparaître. Pierre Signac, qu'on avait reçu pour un long entretien à Mauvais Genre il y a quelques années.
Oui.
Et puis à qui on consacrera dans les mois qui viennent, je pense à la rentrée, une longue émission en compagnie de François Guérif. Aujourd'hui, notre sujet, notre entretien, c'est James Sallis. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, James Sallis, à Saint-Malo, autant que Chester Himes s'y sentait à Arcachon?
Chester Himes was never comfortable anywhere. I think that's one of the great secrets of Chester's life. I, on the other hand, am quite comfortable, thank you.
Je pense que l'un des grands secrets de la vie de Chester Himes, c'est qu'il n'était pas confortable où qu'il soit, tandis que moi, je me sens très à l'aise ici à Saint-Malo, merci.
Très bien, donc je l'ai dit, je le répète, James Sallis, c'est une pléiade d'activités, tous très différentes, toutes assez contrastées. On va commencer, si vous le voulez bien, par évoquer un petit peu la personnalité du biographe de Chester Himes, James Sallis, et on va commencer en musique, une musique qu'il connaît très bien, puisqu'il y a consacré nombreux ouvrages, donc la guitare jazz. We'll be right back. Charlie Christian avec l'orchestre de Benny Goodman. Vous avez consacré trois ouvrages, James Salis, à la guitare jazz. J'imagine que Charlie Christian, pour vous, c'est aussi important que Chester Himes.
Oh dear. I'm not sure that anything's as important to me as Chester Himes. Music has certainly been central and very much at the heart of my life, as it was for Chester, as a matter of fact. But Chester has taught me so many things as a reader and as a writer, and I would hesitate to say anything was more important except perhaps French poetry.
J'hésiterais à dire qu'il y a quoi que ce soit de plus important que Chester Himes. En fait, la musique, pour moi, joue un rôle très important, mais de là à dire que c'est plus important que Chester Himes, je ne sais pas. Il m'a tellement appris en tant que lecteur et en tant qu'écrivain. Je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas quelle place j'accorderais là-dedans à la poésie.
Et Charlie Christian ?
Ah, the single greatest jazz guitarist ever. Almost the entire history of jazz guitar comes directly from Charlie Christian, and we have absolutely no conception of where he found it. Somewhere in Oklahoma.
Alors, pour ce qui est de Charlie Christian, par contre, là, c'est vraiment le plus grand guitariste de jazz qu'il y ait jamais eu, et on ne sait pas, en fait, où il a pris son talent, mais peut-être en Oklahoma.
Vous jouez de la guitare vous-même ?
Do you play guitar?
I play, but very poorly, much the way I speak French.
Je joue très mal de la guitare. En fait, je joue aussi mal que je m'exprime en français.
Alors, évoquons un petit peu, James Salis, vos nombreuses activités. Et parmi celles-ci, et une activité assez ancienne, c'est l'écriture et la critique de la science-fiction. Vous avez découvert un peu la littérature et l'écriture par la science-fiction. Vous avez travaillé notamment avec Michael Moorcock au sein du magazine New World.
And you want to know why I did all of those things. Essentially, I've been looking for a way to make a living all my life, and none of those have actually enabled me to do that. I've been at this for 38 years or 40 years. I've been writing, so it would be surprising if I hadn't done a lot of things. I started off writing science fiction and short stories because at that time, science fiction was where a lot of elements were coming together. There was a lot of turmoil and a lot of depth that was building in the field.
Alors, vous me demandez pourquoi j'ai fait tout ça. En fait, essentiellement, j'ai cherché toute ma vie à gagner ma vie, justement. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à gagner ma vie. Cela fait quand même 38 ou 40 ans que j'écris et j'arrive assez bien à gagner ma vie maintenant par l'écriture. En fait, peut-être que c'est un peu étonnant tout ce que j'ai pu faire. J'ai commencé par la science-fiction car à l'époque, c'était un mouvement très intéressant avec une grande profondeur. J'ai également écrit des nouvelles.
And when I could no longer make a living at that or even pretend to myself that I was making a living at that, I was looking for something else to do, and I was trained as a musician, and I could write, so it seemed quite natural to write about music. And at that point, there was quite a market for serious books about music in the States. There, unfortunately, that market has collapsed now, which, to continue the answer, is why I suddenly started doing something else. I've always considered myself a sort of man of letters in the European sense. I don't think of myself as a poet. I don't think of myself as a novelist. I don't think of myself as a critic. I just think of myself as a writer. And I enjoy doing it all, and I think even though the activities seem disparate and perhaps a bit scattered, I really think it's all one ball of string. It all fits together.
Donc, quand je me suis rendu compte que mes premières entreprises ne rapportaient pas suffisamment, j'ai cherché autre chose. J'avais une formation en musique et comme j'étais écrivain, j'ai décidé de mettre les deux ensemble et de me lancer dans l'écriture de livres sérieux sur la musique. À l'époque, il y avait un marché aux États-Unis pour ce genre de littérature. En fait, je me considère surtout essentiellement comme un homme de lettres dans le sens européen du terme, c'est-à-dire que je ne me considère pas exclusivement comme poète, comme romancier ou comme critique. Pour moi, c'est surtout, en fait, c'est un tout. Je me considère d'abord et avant tout comme un homme de lettres.
Et vous avez une quatrième activité, un peu, c'est l'activité de traducteur, notamment d'auteurs français comme Raymond Queneau. Comment vous en êtes venu à être traducteur?
That's actually an embarrassing question, since I can't sit here and speak French with you. I was in London to edit New Worlds, the magazine that you mentioned, and I was stupid enough to say I would do it, and even though I had no idea what I was supposed to be doing, I was 22 or something like that. In London, I discovered American hard-boiled fiction, Hammett and Chandler, which is one of the reasons I'm here, and I also discovered French literature. At that point, I went to school in the 60s. You didn't hear about contemporary French literature. If you heard anything, it was the classics, and very little of that. I found in both of those, in contemporary French literature and in the American crime novel, something that was that had great urgency for me and that spoke to me very personally. I had French in college, but when you are 19 years old and start trying to learn language, as you well know, it's virtually impossible, and I hadn't absorbed much. I began to learn French by reading. I would just pick up short stories and poems and just beating my head against the wall. I would just read and read and read until it started to make sense to me.
Donc je me suis lancée un petit peu dans la traduction par hasard. C'est un petit peu peut-être gênant d'en parler car je ne m'exprime pas très bien en français. Mais en fait tout s'est passé à l'époque à Londres. J'ai simplement dit que je le ferais, que je ferais de la traduction. J'avais 22 ans à l'époque, c'est l'époque où j'ai découvert Chandler, mais aussi où j'ai découvert la littérature française. Dans les années 60 aux États-Unis, on n'enseignait pas vraiment la littérature française contemporaine, on parlait plutôt de littérature française classique, mais pas de littérature contemporaine. J'ai vaguement appris le français à l'université à 19 ans, mais vous savez, on n'apprend pas vraiment une langue étrangère à 19 ans, c'est à peu près impossible. J'ai appris surtout en lisant de la poésie, en lisant des nouvelles et en m'acharnant, simplement en m'acharnant. Et c'est comme cela que j'ai appris le français.
Parce que vous n'avez pas choisi les auteurs les plus faciles en français. Un auteur comme Raymond Queneau me paraît extrêmement difficile à traduire en américain.
I chose the authors that seemed to speak to me in a way that that no authors in English did. I had discovered Boris Vian when I was in London. They had published two translations, and I saw in his work something that I was striving towards in my own. And if you go seriously into a consideration of someone like Vian, Queneau just lives right next door. So I started reading that. And I know that I probably should have started with The Little Prince or something like that, but I really wasn't interested in writing The Little Prince. I was very interested in writing a novel like Le Comte de Jour.
Donc j'ai choisi les Français qui me parlaient. J'avais découvert Boris Vian en traduction. Boris Vian n'est peut-être pas le plus simple avec lequel commencer. Mais en fait, Queneau est très proche de Boris Vian. Et ce sont des auteurs qui me parlaient. Peut-être que j'aurais dû commencer par quelque chose de plus simple comme Le Petit Prince. Mais ce n'était pas ce qui me parlait à moi personnellement à cette époque-là.
Vous traduisez également des auteurs russes?
You translate Russian authors, you said?
I have. I studied Russian very intensively for about 2 years. I almost did nothing else. And at that time, yes, I did translate some Russian poetry. I have lost the Russian completely. I can't even pretend that I have any Russian anymore. But again, it was partially... I had received so much from reading French literature that I thought, what will I receive if I learn other literatures? And I studied Spanish very closely and did a lot of translations from Spanish.
Vous faites espagnol maintenant, vous traduisez espagnol.
So you translate from the Spanish.
I don't anymore, but for a short period I did. And I even translated from Polish, a language that I really didn't know, but it was close enough to Russian that I could, with the dictionary, figure it out.
Donc je me suis concentrée pendant 2 ans presque exclusivement sur l'étude du russe et j'ai traduit un peu de poésie russe à cette époque-là, mais je dois dire que j'ai tout oublié, je ne parle plus du tout russe, je ne comprends plus du tout le russe. Je me suis ensuite intéressée à l'espagnol, j'ai fait quelques traductions de l'espagnol, mais également du polonais parce que ça se rapproche un petit peu du russe.
I am a brave if not a cautious man.
Je suis un homme courageux. Peut-être prudent aussi.
Donc James Salis, critique de jazz, auteur de science-fiction, jazz, traducteur de poésie russe et de poésie française. Voilà quelques-uns des facettes du personnage. On va explorer maintenant avec vous, Jean-Yves Bocher, la facette qui nous rassemble aujourd'hui, celle de l'auteur et d'amoureux de l'univers noir et policier. James Salis, vous êtes né en 1944 dans le sud des États-Unis, sur les rives du Mississippi. Alors, avant que vous en lisiez les auteurs, avant que vous écriviez, que vous commentiez leurs textes, quel était un petit peu votre rapport avec le monde noir américain, les Noirs du Sud?
That's a very complicated question for a Southerner. You've all read Faulkner, so you know as much as I do about it. I grew up in, my parents were working class and they had not finished high school. And I grew up in a fairly poor part of town. And all of my playmates were blacks until I was about 10 or 12, and perhaps a bit younger. And I was told that I couldn't play with those children anymore. I had no explanation was given to me. I was supposed to have absorbed somehow the fact that we were going to be separated. That was traumatic to me. And after that, I really had very few friends until I went off to college. I mostly spent the rest of my childhood with just reading, staying in my room. I used that scene in one of my novels, reversing it, where my black protagonist is told he can't play with his white friends anymore to try to discharge the emotional residue of it in my own life.
Donc, c'est une question fort complexe que la question des Noirs dans le sud des États-Unis. Vous connaissez tous Faulkner, donc je n'ai pas à vous en parler plus longuement. J'ai grandi dans un milieu à col bleu. Mes parents n'avaient pas même leur niveau bac. J'ai grandi parmi les Noirs. J'ai joué essentiellement avec des Noirs jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Et un jour, on m'a dit que je ne pouvais plus jouer avec des Noirs. Je ne comprenais pas pourquoi, mais on partait du principe que je devais le savoir sans qu'on me fournisse d'explications. Et donc ce qui est arrivé, c'est que je n'ai plus eu d'amis jusqu'à ce que j'aille à l'université. J'ai cessé d'avoir des amis. Je me suis limitée à mes lectures dans ma chambre, donc j'étais très seule. Et plus tard, en fait, j'ai renversé un petit peu la situation et j'ai décrit cette scène en disant que c'était un garçon noir à qui l'on avait dit de ne plus jouer avec des blancs, pour essayer simplement de me décharger de toute cette ambiance.
Jean-Yves Bocher.
Pour parler un peu de notre héros et de votre série de romans noirs qui se passe à la Nouvelle-Orléans et dans le sud profond, votre héros s'appelle Hugh Griffin, c'est un détective privé noir qui a cette particularité et ce point commun avec Chester Himes d'avoir comme lui un passé de délinquant et d'aimer beaucoup les femmes blanches. Votre héros, détective privé, est extrêmement cultivé. Il cite Queneau, il cite Chester Himes. Un des livres est d'ailleurs écrit en hommage à Chester Himes. Et j'aimerais vous demander, c'est peut-être une coïncidence, mais le prénom de votre héros, c'est Liu. Il me rappelle Liu Archer de Ross MacDonald. Est-ce que c'est une coïncidence? Et puis surtout, son nom, c'est Griffin. Et il y a un écrivain américain qui, dans les 50-60, Howard Griffin, a écrit un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'un noir. Est-ce que c'est la référence?
No, that's not a coincidence. You never claim coincidence. You always plan all of these things, right? I wanted to name the character Lou because I wanted to give homage to Lou Archer. And I didn't really know what the second name was. I wanted something rather dark and strange, and it just occurred to me that that would be a kind of a smart, playful thing to do.
Alors non, il n'y a rien qui est une coïncidence en fait, tout est prévu, tout est planifié. Donc j'ai choisi Lou en hommage à Lou Archer, j'ai cherché un nom de famille, j'ai trouvé quelque chose qui me semblait quand même assez étrange et donc non, il n'y a pas de coïncidence, c'est voulu.
And thank you for noticing.
Merci d'avoir remarqué.
L'univers du Sud dépeint justement par James Salis dans une des aventures de Lou Griffin.
Cette nuit-là, brutale et invisible, dans l'étreinte du ciel noir, comme si la ville, telle Alice, avait dégringolé au fond de quelques trous primitifs et était passée dans un autre monde, un orage a éclaté. J'ai été réveillé vers 3 ou 4 heures du matin par les branchages qui venaient fouetter le côté de la maison. L'électricité avait été brusquement coupée et il n'y avait plus de lumière dehors. Il n'y avait plus de lumière du tout. La tempête soufflait en lourdes rafales quelque part dans l'obscurité. La pluie émettait un chuintement et martelait le toit de ses poings. Et pourtant, si je regardais dehors, je ne voyais rien de tout ce que je percevais. Ça a duré une heure encore, peut-être plus. Comme nous l'avons appris le lendemain, nous étions juste à la limite du cyclone qui avait touché Galveston, avait arraché des immeubles entiers comme on arrache une dent. Et qui était retombé de lui-même en s'engouffrant dans le détroit du Mississippi vers la baie de Mobile. Le matin où nous avons appris la nouvelle, le temps était doux, l'air d'une légèreté exceptionnelle, le soleil brillait de frais dans le ciel. Les vers de terre envahissaient les trottoirs et avaient déroulé leurs anneaux, exhalant paresseusement une brume vaporeuse. Dans toutes les rues, les voitures manœuvraient pour éviter les branches arrachées à des arbres vénérables et échouées en terrain neutre, gisant en travers des rails du trolley, des palmiers déracinés, un bon tiers du patrimoine séculaire, sans âge de la ville.
Voilà donc un portrait du Sud par James Salis tiré des aventures de Lou Griffin. On peut en dire un peu plus à la fois sur ses aventures, sur les personnages qu'il rencontre, sur la manière dont il fonctionne dans cet univers de la Nouvelle-Orléans, nous qu'on connaît déjà un peu par Poppy Z. Braye, par Anne Rice, mais là c'est tout à fait différent, c'est par James Lee Burke aussi.
On connaît aussi par James Lee Burke en France. Son héros est c'est très particulier et c'est en cela où c'est vraiment toute une série de romans très intéressant parce qu'il y a une écriture extrêmement poétique chez James Salis, à la fois sèche et qui par moments, comme on vient de l'entendre, peut aller vers le lyrique. Son héros est extrêmement nonchalant, s'intéresse assez peu à ce qui lui arrive, à ce qu'il va découvrir. Il le découvre sans le découvrir, c'est-à-dire que c'est le temps, la marche, ses réflexions, son rapport à la littérature qu'il fait avancer et qu'il fait comme ça découvrir et aller au bout de l'enquête. Moi, il y a une chose aussi qui est marrante, qui est amusante, c'est pourquoi avoir choisi chaque titre fait référence à un insecte. Pourquoi cette référence?
Thank you. That sounded wonderful. I'll answer the last part of that first. The insect titles. When I originally began writing the stories about Lou Griffin. I thought it was just going to be a short story. And that short story is now the first quarter of The Long-Legged Fly.
Le Faucheux en français.
Oui. And I thought, I had this title in mind for a long time. It's a poem by William Butler Yeats in which he describes periods in history, human history. And the refrain is like a long-legged fly on the stream of time. And I just loved this image of someone sort of sitting above all of these huge things, the fall of Troy and you know, Rome coming up and all of this, and sitting there and watching all of this flow beneath him, but being essentially unmoved and untouched by it. That was such a strong image that I wanted to use that as the title. You want to translate that?
Donc, effectivement, il y a, pour ce qui est de l'insecte, il y a une très forte influence. Au départ, je pensais de faire de Lou Griffin, en fait, une simple nouvelle. Et cette nouvelle est devenue le premier quart de mon roman intitulé Le Faucheux en français. Je me suis inspirée d'un poème de Yeats, qui est un grand auteur britannique et qui décrivait, en fait, les périodes de l'histoire du point de vue d'un insecte. Un insecte, en fait, qui n'était pas touché par les grandes perturbations de l'histoire. Alors, j'ai pensé par exemple à la déchéance de Troie ou de Rome, du point de vue de l'insecte qui n'est pas du tout concerné.
Voilà, oui.
I'm just going to continue. The reason I use insect titles for the other books, and believe me, by the third book it was becoming very difficult to find a title that worked. I write so many things, as you've pointed out. I wanted to alert the readers, to let them know that this was a book of a certain type. That's the only reason. There really is no deeper philosophy to it. I loved your comments about the lyricism of the books and all of the things that happened, because what I wanted to do with those books, and I hope I succeeded, was create an entire textural portrait of a human being, all of his doubts, all of his weaknesses, everything. The first book, The Long-Legged Fly, deals with Lou Griffin in four decades of his life, and you more or less know the shape of his life. Then with subsequent books, I came in at different parts to flesh out those parts of his life and show you what that instant in time was like for him. So you really have the entire series, though I quite honestly don't think of it as a series. I just think of it as this immensely long novel. All of this is limned in the first book, and the others are just that's like a jazz player playing the melody, and then we're going to go play riffs off of it for the next five.
Donc pour les autres volumes, il me devenait de plus en plus difficile de trouver des insectes. Arrivé au 13e livre, j'ai eu du mal franchement à trouver un insecte. En fait, ce que je voulais faire, c'est que j'écris beaucoup de choses différentes et je voulais simplement que le lecteur s'y retrouve un petit peu, qu'en prenant ce livre, il sache un petit peu à quoi s'attendre, que c'était encore un livre qui s'inscrivait dans le cadre d'une série, si l'on peut dire. J'ai bien aimé vos commentaires sur l'aspect lyrique du livre. Mon ambition était de faire le portrait d'un homme, de faire le portrait d'un homme avec tous ses doutes, toutes ses faiblesses. Dans mon premier livre, j'ai décrit les quatre premières décades de la vie de Lou Griffin, et je pense que l'on comprend quand même un petit peu sa vie. Et dans mes autres romans, j'ai voulu étoffer certaines tranches de sa vie, mais je pense que l'on trouve l'essentiel dans le premier roman, et que les autres romans servent à remplir, à compléter un petit peu ce que l'on sait de lui, un petit peu comme le joueur de jazz avec une phrase musicale qui reviendrait tout au long de la pièce.
Alors Le Faucheux, donc premier roman des aventures de Lou Griffin, qui s'ouvre par une scène de mise à mort.
Bonjour Harry. Ses yeux malades cherchent à éviter la lumière. Il porte une veste de velours côtelé sur une chemise en jean, un pantalon de toile qui fait des poches aux genoux et aux fesses. Le pantalon est trop long et les manches de la chemise s'effilochent. Harry avait toujours soigné sa mise, c'est ce qu'on disait. On parlait même de coquetterie à son propos. Mais aujourd'hui, la dope et son palpitant capricieux ont eu raison de lui. Carl ? Sa voix est un souffle rauque d'emphysémateux. Maintenant encore, une cigarette lui pend au coin des lèvres. Elle tressaute de haut en bas à chaque mot qu'il prononce. J'ai le fric, vieux. Même chose que d'habitude, hein? Comme t'as dit? Une quinte de tout lui remonte des profondeurs. Te presse pas, Harry, t'énerve pas. Y a pas le feu, décompresse un peu. Profite de la vie. Les lumières de la cour m'éclairent par derrière et il plisse les yeux pour tenter de voir la silhouette qui se rapproche. Non que cela change grand-chose. Il n'était pas capable de distinguer un blanc d'un noir. Et d'ailleurs, je veux d'abord te raconter une histoire. Tu aimes les histoires, Harry? Derrière nous, les Derrick respirent, se taisent, respirent, se taisent. Magazine Street, 22h15, un samedi soir, il y a environ un mois, il y avait une fille du Mississippi, Harry. Une fiesta. Et toi? Ça commence à te rappeler quelque chose? Ce regard fouille l'obscurité qui l'enveloppe. Ça fait longtemps que je te cherche, Harry. Ça m'a pris longtemps pour te retrouver. Un homme comme toi, avec des besoins comme les tiens, ça ne devrait pourtant pas être si difficile à retrouver. Il ôte la cigarette de sa bouche et la jette par terre. Elle reste là, tel un œil à demi-mort. Je sors du champ lumineux et quand il m'aperçoit pour la première fois, il a peur, vraiment peur. Les vieilles peurs ne s'oublient pas si facilement. Bien sûr, ce n'est qu'une histoire. Les histoires nous aident à survivre. Une histoire, ça peut pas faire de mal, pas vrai, Harry? Je lui laisse entrevoir le couteau dans ma main, un couteau de bourrelier. Le grand Sambo est venu te chercher, Harry. Le grand nègre va te découper en petits morceaux, comme ce que tu as fait à la fille. Restera rien pour les poules et les cochons. Même pas assez pour faire un gumbo. Il regarde de droite et de gauche. Il sait qu'il y a une issue quelque part, mais ce qu'il sait aussi, c'est que comme tout le reste jusqu'ici, elle va lui échapper. Écoute, mec, je te connais pas, mais t'as tort sur toute la ligne. Je t'explique, c'était pas ma faute. Moi, je lance les trucs. J'organise, en quelque sorte. J'ai jamais rien fait d'autre. C'était des tarés, mec. Avec leurs putains de cheveux jusque-là dans leur camping-car de Bosch. C'est eux qui ont bousillé la fille. Ça lui sort un peu comme l'accouchement de l'univers tel qu'on se l'imagine. Des soubresauts sans lien entre eux et au fond, tout se brouille en un magma informe. Je lève le couteau et la lumière vient frapper la lame recourbée. Ouais, je sais, Harry. Des dingues qui nourrissent leurs démons à l'héros et à la poudre. Des dingues qui carburent en fainéant, coke, qui ne se sentent plus parce qu'ils viennent de piquer 200 sacs dans le tiroir caisse d'un père de famille et de sa bobonne. Mais qui leur a fourni la cam, hein, Harry? Qui la leur a donné? Qui a commencé à faire chauffer l'ambiance? Combien ils y ont laissé? Et qui a eu l'idée de faire entrer la fille dans la danse?
Voilà, Jean-Yves Baucher, pour conclure sur les aventures de Lou Griffin.
Oui, il y a une autre particularité aussi qui complique un petit peu vos romans, c'est que Lou Griffin, à un moment donné, devient écrivain lui-même. Et donc, vous instituez comme ça une sorte de mise en abîme de l'écrivain qui a pour héros un détective privé, qui lui-même est écrivain, qui réfléchit sur la littérature et sur la condition des Noirs aux États-Unis.
Another complex question.
Une autre question compliquée.
Sorry.
Oh no, I appreciate it. That wasn't planned. As I began writing the book and discovered that my character was black, which indeed I did not know when I started the book. I'm an improviser, as I suggested. I realized that I was using a lot of what I had absorbed from Chester Himes, from Chester's novels, and from trying to find out about Chester's life, which I had spent some time doing. This is years and years before I wrote the biography. At that point, I just had the idea maybe I would make him a writer, because the whole arc of his life is educating himself and changing again and changing again, and sort of the final change is to stop living and start writing. So I was considering that, and then I can't be too exact about my other reason for doing it, because the sixth novel has not been published in France yet. Let me just say that there's an elaborate joke through all six volumes, which I think one person so far has actually understood in the States, one critic. Lou, during his life, pretends to be things he's not because that's how he functions in the world as a black man, and that's how he functions in the world as a detective, and that's how he functions in the world as a writer. The books are also pretending to be something they're not, and you don't find out what they really are until the last volume, the sixth one.
Donc, ce n'était pas prévu du tout. En fait, dès le départ, au début, je ne savais même pas que mon personnage était noir. Cela s'est imposé un petit peu après. Comme vous pouvez le constater, j'improvise beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à Chester Himes. Il m'a beaucoup influencé, même avant que je commence à décrire sa biographie. Donc, je ne savais pas que j'allais en faire un écrivain. C'est venu après. Enfin, on constate que Lou Griffin, en fait, change toute sa vie. Il change, il change, il change. échanges, jusqu'à ce qu'un jour il se mette lui-même à écrire. Je ne vais pas en parler trop, car mon sixième roman n'a pas encore été publié en français. Et il y a un seul critique américain qui, après la lecture de mon sixième roman, a compris la blague, en fait, qui se déroule tout au long de ces six romans. Donc, il y a une grande blague qui se déroule dans ces six romans. On doit se rappeler que Lou Griffiths fait semblant. Il fait semblant toute sa vie. Il fait semblant en tant que noir, en tant que détective, en tant qu'écrivain. Il fait semblant toute sa vie et c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
Très bien, avant de découvrir ce sixième volume des aventures de Lou Griffiths, je vous propose de s'intéresser au dernier ouvrage donc paru de James Salis en France, Chester Himes, Une vie, donc cette biographie publiée aux éditions Rivage. Voilà, l'orchestre de Charlie Mingus pour ouvrir une discussion sur Chester Himes. C'est vrai qu'entre Charlie Mingus et Chester Himes, il y a quand même des liens. James Salis,
yes, le
tempérament, la personnalité.
You're going to have to tell me.
À vous de me le dire.
Oui.
Bah, déjà, l'autobiographie de Charlie Mingus, moins qu'un chien, ça rappelle un petit peu quand même la vie de Chester Himes.
Le tempérament, la violence aussi. Le rapport aux femmes, à l'alcool.
I suppose there is. I hadn't even thought about that, but I'm sure we could say that about several thousand other black men who came up during that period, especially creative black men.
Je pense que je n'y avais pas réfléchi, mais je pense qu'on pourrait le dire au sujet de plusieurs milliers d'hommes noirs qui ont grandi dans cette époque-là.
Très bien. Alors, puisqu'on a affaire à un critique musical, on peut utiliser une image musicale. C'est Brahms qui dit que quand il écrit de la musique, il entend le géant Beethoven marcher derrière lui. Est-ce que Heinz, c'était pas un peu votre Beethoven à vous? Est-ce que c'est pas la grande ombre qui vous couvre quand vous écrivez ou vous abordez la littérature?
He is certainly in the series of novels. I don't know if he's a shadow or a bright light. I think perhaps a bright light would be more accurate. I would never have written the first page of any of these if I had not been reading Chester. I was responding so intimately to what he was doing and to the messages he was giving, and I was feeling the pain in his life so much that is what created these books. These are not transliterations of Chester's life by any means, and they're not transliterations of my life, but I use elements of my life in them, and I use elements of Chester's life in them. They're actually more indebted to Chester's biography than they are to the Harlem novels, because there's no way you can write anything like the Harlem novels. They're there and they're going to stay there, and you just do something else. Do you want to try to say that?
Je pense que je n'aurais pas écrit sans Chester Himes. Je ne sais pas si je le qualifierais d'ombre qui plane au-dessus de moi, peut-être plutôt de lumière, de grande lumière ou de lumière vive. En fait, je pense que j'ai réagi au message de Chester Himes. J'ai ressenti les douleurs de sa vie. En fait, ce n'est pas une traduction de sa vie ou une traduction de la mienne. Ce sont plutôt des éléments de sa vie, des éléments de ma vie. Et je fais plutôt référence à sa biographie plutôt que à ses romans, car je ne crois pas que l'on puisse essayer de refaire ses romans.
Est-ce que le fonds d'archives Himes est aux États-Unis? Comment s'est passé un petit peu votre travail avec les témoins, les archives, les documents?
You know, I would not have agreed to do this biography except that I felt I had already done most of the homework. Because in trying to find out about Chester, since there was really nothing available until Michelle Fobb's biography, which happened while I was preparing to write my own, I I had read all of the novels, some of them multiple times. I had read the autobiographies over and over. I had copies had sort of come apart in my hands. So I felt that I already, I knew the outline of the life and what I wanted to do, but I didn't feel that I knew Chester. I still don't really feel that I know Chester, but I managed a few good spots in there. Unfortunately, by the time a publisher commissioned me to write this book, many of the people who should have been interviewed had died, including Chester's brother Joe and Chester's first wife, Jean, who just died a year or so before I started writing. So there were a number of people I couldn't interview. I did interview those people who had been in Paris with Chester, painter Herb Gentry, various other friends of his from the time. And as for the archives luckily are in my old alma mater at Tulane University in the Amistad collection. So I went there as an alumnus and got a virtually free dormitory room and did nothing else for, I think it was about 2 weeks, but just looked through Chester's letters, looked through contracts, looked through date books. They have virtually everything there. They also have his brother's archives, which aren't particularly helpful, but it was nice to get a feeling for Joe.
En fait, les recherches, je les ai faites sur plusieurs années. Je n'aurais peut-être pas fait cette biographie si je n'avais pas déjà fait tout ce travail. Il y a aussi une biographie qui a été publiée, la biographie de Michel Fabre, juste au moment où j'écrivais moi ma biographie.
Michel Fabre qui a signé la postface de votre livre, d'ailleurs.
Michel Fabre, oui. Michel Fabre wrote the postface in your book, actually. So, alors Michel Fabre donc a publié cette biographie au moment de où j'écrivais moi ma biographie. J'ai tout relu à plusieurs reprises tout ce qui a été écrit au sujet de Chester Himes. En fait, je ne dirais pas que je le connais parfaitement bien, mais je connais quand même assez bien. Pour ce qui est des témoins, eh bien, malheureusement, il y en a qui sont décédés avant que je ne puisse les rencontrer. Je pense à son frère Joe ou à sa première femme Jean. J'ai quand même pu interroger quelques amis parisiens de l'époque. Pour ce qui est des archives, eh bien, les archives sont dans ma vieille université à moi. Donc, j'ai passé quand même 15 jours là-bas à lire tout ce qui le concernait, des documents, des lettres de lui, des contrats. Et l'université possède également les archives de son frère, ce qui m'a permis quand même de me familiariser avec beaucoup de documents.
Alors Chester Himes, on va le voir, a passé de nombreuses années en France, assez en tout cas pour attirer l'attention des intellectuels français, bien évidemment, mais également de la radio, et de répondre, nous étions le 24 avril 1957, aux questions de Roger Grenier, la voix de Chester Himes.
Pouvez-vous me dire, Monsieur Chester Himes, si ce livre est vraiment une autobiographie?
Oui, c'est une autobiographie, excepté la fin, qui est imaginaire.
C'est-à-dire, après la mort du père et la déchéance de Charles, qui est celui des enfants, qui sans doute vous ressemble le plus.
Tout ce qui se passe après le retour de collège.
Quelles sont, selon vous, les raisons des malheurs et de la déchéance de cette famille? Parce que je suppose que vous n'avez pas seulement voulu raconter une histoire qui d'ailleurs est très belle, très riche, très émouvante. C'est tout un monde dans lequel on pénètre et on se prend en amitié pour tous ces personnages. Je suppose que vous avez voulu donner un sens à cette troisième génération dont vous racontez la vie et les malheurs.
La raison principale est la mère, qui est trop ambitieuse. Pour les limitations raciales imposées aux enfants.
Dans la troisième génération, le problème central est évidemment le problème de race. Mais dans d'autres livres de vous, en particulier dans La fin d'un primitif, qui est un roman qui m'a beaucoup frappé par sa violence, son mordant, son esprit satirique, il semble que d'autres problèmes sont envisagés.
Je n'écris pas sur les problèmes raciaux spécialement, mais sur les problèmes sociaux aux États-Unis concernant les Blancs et les Noirs, dont un est le problème des races.
La fin de Primitif, qui est en effet un livre plein de violence et d'un désespoir extraordinaire en même temps, m'a paru comme la satire de toute une civilisation.
Oui, c'est une satire de la vie américaine.
Et quel accueil trouvent vos livres en France?
J'ai constaté qu'en France, on fait un effort pour comprendre mes livres. On ne les rejette pas à cause des dits préconçus.
Voilà, Chester Himes répondant aux questions de Roger Grenier en 1957. Voilà, il évoquait son roman La Troisième Génération. C'est vrai que la question de la famille, de la transmission est importante. Si on essaie de prendre les choses par leur commencement, James Salis, ce qui est marquant de voir que Chester Himes n'est pas né dans une famille, pour rappeler, du lumpen prolétariat noir américain, mais dans une famille de la petite bourgeoisie noire. Sa mère avait une immense ambition. Son père était ferronnier, même on peut dire ferronnier d'art. Et donc, c'était des gens qui avaient un certain confort, enfin, un certain niveau social, mais qui se désespéraient de voir que ça ne pourrait jamais aller plus loin. James Salis.
Chester's family background was at the heart of everything he felt and everything he wrote in one way or another. One of the most intriguing things about Chester's work for me is the way the autobiography, or the, I should say, not the autobiography, but the autobiographical substance or material is threaded into the imaginative material from which he spins his novels. Yes, it's very strange. We, in the States, we have forgotten that there was a black American middle class at that point of educated people, and that has almost been lost, and it's rather surprising when we come across that. But Chester's mother had grand ambitions for everyone in the family, and she was a bit disappointed all her life that the family just wouldn't do as she said and live up to those ambitions. She finally gave up on her husband and sort of transferred those high expectations onto the sons, and especially to Chester. Chester spent the rest of his life, on one hand, trying to rise to the occasion and become an educated middle-class person the way his mother wanted to, and to run as far and fast from that as he possibly could.
Donc, les éléments du milieu de Chester se retrouvent partout dans ses romans. Je pense qu'aux États-Unis, on a tendance à oublier l'existence de ce milieu de la classe moyenne noire. On en a complètement oublié l'existence. En fait, il a une mère très ambitieuse qui finit par être déçue par sa famille, qui ne répond pas à ses attentes. Elle est déçue par son mari et elle finit par transférer toutes ses attentes sur ses fils et principalement sur Chester. Chester qui essaye de répondre aux attentes de sa mère et qui finit par fuir après aussi loin, aussi rapidement qu'il le peut.
Jean-Yves Baucher.
Avant de continuer le déroulé de la vie de Chester Himes, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à votre introduction, à votre biographie, où vous dites, vous écrivez, que vous considérez que Chester Himes est le plus grand écrivain noir américain contemporain. En quoi pour vous est-il plus important que des gens comme Ralph Ellison, James Baldwin ou même Richard White?
How do you consider these more important than other black writers?
I don't think I said most important. I think I said central or something. Did I say most important? Well, I have to change that in the next edition, won't I? I don't claim that he's the most important. I don't feel that excises anyone else from the list. Certainly Richard Wright's very important, and a number of people who are just now actually coming into print for the first time in years and years and years are very important writers. What I mean by that, and I hope I explained it in the introduction, is that I think Chester is central because the threads of a lot of African-American literature sort of meet right with him. He carries on the tradition of the literary young novelist, the sort of naturalist novel, as we say in the States, that Richard Wright stayed with all of his life. You see that in If He Hollers, the first of the novels, and you pretty much see it in all of those early novels. He then made a sudden change into something that is what we now call black comedy, but this was years and years and years before we had a word for black comedy, in which he is combining the horrific and the comic in the same sentence, the same image, the same person. This is very, very much what you see in recent black films. then he developed even further into a fabulist realm where he was not even pretending to be naturalist. He was spinning out wild stories. He was doing chants in dirty dozens, as we say in the States, making up these fabulous phantasmagoric things. And I think that you see elements of everything that was happening in African American literature through his career in everything he did, or in bits and pieces in everything he did. And that's why I make a claim for him as being a central black writer of America.
Est-ce que j'ai vraiment dit qu'il était un des auteurs les plus importants? En fait, il faudra peut-être que je change ça dans la prochaine édition. Ce que je voulais dire, c'est qu'il joue un rôle central, un rôle de premier plan. En fait, il s'inscrit dans la lignée d'un mouvement de jeunes auteurs noirs naturels, comme Richard Wright. Et on trouve, en fait, tout ça dans ses premiers romans. Et il continue, en fait, dans cette lignée. Et il, après, passe à une littérature que l'on appelle aujourd'hui la littérature noir comique, mais qui n'avait pas encore été nommé à l'époque. Il inclut dans ses romans des éléments horribles et des éléments du comique, et en fait ce sont des éléments que l'on voit aujourd'hui dans les films noirs américains. Il a continué plus tard, il a écrit des fables, des histoires assez fabuleuses, assez fantasmagoriques, et l'on retrouve tous ces éléments en fait dans sa littérature. Et c'est à ce niveau que je pense qu'il a joué un rôle vraiment central.
Alors la vie de Chester Himes, James Salis, se déroule, je dirais, à coup de traumatisme, à coup de violent, de choc violent. Alors, on peut citer deux chocs de sa jeunesse. D'abord, l'accident qui rend son frère aveugle, auquel il est lié indirectement. Un choc, un traumatisme physique quand il a cette espèce de chute dans un ascenseur où il en sort physiquement totalement démantelé. Ça, c'est un événement tout à fait terrible pour lui. Et puis une troisième expérience, c'est la prison. Donc justement, comment un peu peut-on
Yes, he led an extremely difficult life, and much of that was caused by himself. He had profound self-destructive instincts, and it's a bit difficult sometimes to say exactly where those came from, as it is with most of us. A lot of it was that he was fleeing his mother's vision of him. And he was trying to be the baddest boy on the block, and he just about made it to being the baddest boy on the block. It's easy to overemphasize Chester's criminal background now that we have knowledge of people like Iceberg Slim and Donald Goins and these people, and we've all seen Boys in the Hood and all of the gangsta movies. Chester wasn't very much of a criminal. He was trying pretty hard to mess it up every chance he got. He would do the most astonishingly stupid things and then be surprised that it didn't work and that he got caught. He was trying to force himself into something, I think. I don't want to be too facile about why he was doing those bad things, but there are really only a handful of criminal acts, and in each one he contrived to be caught or to be punished in some way, and in the last one it was so appallingly stupid that he wound up in one of the toughest prisons in the United States for 7.5 years.
Donc sa vie effectivement a été très difficile, mais il était responsable de ses difficultés. En fait, il a un instinct autodestructeur très très développé. De là à dire d'où ça venait, on ne sait pas vraiment. Il fuyait peut-être simplement les attentes de sa mère. Il cherchait à être le pire voyou possible. On pourrait facilement tomber justement dans la facilité, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment insister sur ces aspects de sa vie qui jouent peut-être un rôle essentiellement mineur? Aujourd'hui, on a un mouvement littéraire dans ce genre, au niveau des films, Boys in the Hood, ou ce genre de films. En fait, il n'était pas un très bon criminel. Il réussissait toujours à se faire prendre. Il a fait des choses vraiment bêtes et stupides. L'on pense peut-être qu'il s'obligeait à agir comme un criminel, à être criminel. Il cherchait à jouer au dur, mais en même temps, il cherchait à se faire attraper, à se faire punir, tellement qu'à la fin, il a passé 7 ans et demi dans la plus dure prison américaine.
tête et j'ai regardé par la fenêtre qui se trouvait juste au-dessus de mes yeux. J'ai vu la lune dans le ciel bleu sombre et un mirador avec ses projecteurs dirigés vers les murs. J'ai aperçu la silhouette du garde qui se découpait sur le ciel, une carabine nichée au creux de son bras et la lueur intermittente de la cigarette qu'il avait à la bouche. J'ai vu la grande étendue noire des murs. Quand on tournait les yeux vers les murs, le regard s'arrêtait. Tout s'arrêtait au mur. Les murs n'étaient éloignés du bâtiment où se trouvait le dortoir que de 5 mètres. Je pensais alors que la liberté était là, à 5 mètres. 5 mètres. Et 20 ans.
C'est vrai que Chester Himes avait été condamné à 25 ans de prison. Il n'en a heureusement pas fait autant.
Il en a fait 7.
Fait 7, 8 en comptant la ferme pénitentiaire. Jean-Yves Baucher.
Il y a une autre singularité, je trouve, de Chester Himes, c'est que par rapport à d'autres écrivains comme Baldwin Ellison ou même Langston Hughes, il y a une violence énorme, très importante, aussi bien contre la société blanche américaine raciste que contre même les Noirs. Il y a une conférence qu'il a prononcée à Chicago en 1948 qui me paraît être un petit peu le pivot de votre biographie autour de Chester Himes. Vous y revenez sans arrêt, ça me paraît être un texte très important par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'il pouvait penser, où il dit que la vie du Noir est modelée, définie et contrôlée par la peur.
Yes, that is a crucially important part of Chester. And you, if you want any interpretation of Chester in dealing with racial issues and with the repressive role of a black man, you start from there and you go backwards, and you start from there and you go forwards. This is a period in Chester's life. Remember that Chester had, while in prison, begun publishing stories in Esquire magazine with the best writers of the time, people like Hemingway and Steinbeck. He had every reason to believe that he had a career as a writer, and that once he got out of prison, he would continue that career. It turned out to be quite different. He met obstacles at every turn. Yes, he did publish a few more stories in Esquire, but he couldn't get a job out in LA writing for the movies. He did work as a porter, a bellhop. He just kept running into the wall. He couldn't do anything. That nobody wanted to read his novels. Nobody wanted to publish his novels. And he reached a point at which I think Chester thought, that's it. I don't have a career. I'm not going to do anything. And the violence is always there in his work. A lot of that is that inner violence turned outwards. It's certainly in If He Hollers, Let Him Go, his first novel. It's certainly in Lonely Crusade. But I think at the point Chester came to the University of Chicago, he had largely abandoned the idea of a career, a sustaining career as a writer, and for the first time let that anger come forth unmediated by art. And that's why this speech is so important. The things he says are things that he evokes in the early novels. That's what they're all about. If He Hollers, Let Him Go is about an intelligent, educated black man trying to find a place in American society and being unable to, as is Lonely Crusade. In the later Harlem novels, he demonstrates these things with his fables, his you know, A-realist stories he's telling. But in that speech, which is a very brief speech, even though I go on about it for some time, he says exactly what he thinks, which is, there is no place for a man like me in this society, and there will never be a place for a man like me in this society, because the violence leveled against me by the society and the violence leveled against me by blacks who are encouraged to level violence against themselves will defeat me.
Et donc, il y a eu cette conférence à l'université de Chicago. Cette conférence est tellement cruciale qu'on peut parler de l'avant et de l'après-conférence. On a le regard en arrière, le regard en avant, mais c'est vraiment le moment marquant de sa vie. Il avait publié, lorsqu'il était en prison, des nouvelles dans Esquire. Il était en bonne compagnie. Esquire publiait également Hemingway et Steinbeck. Et il croyait en la possibilité de faire carrière dans la littérature. Mais l'après a été bien différent. À sa sortie de prison, il a cherché à publier, il a réussi à publier encore quelques nouvelles dans Esquire, mais il ne trouvait pas à être publié. Et avec cela, augmentait sa colère. Et sa colère augmentait. Sa colère était une colère intérieure qui était montrée, qui n'était pas toujours montré à l'extérieur. Mais à Chicago, je pense qu'il avait complètement abandonné l'idée de faire carrière dans la littérature. Et c'est là qu'il a laissé sa fureur s'exprimer complètement. Ce n'était pas un discours très long. J'en ai parlé très longuement, moi, mais son discours n'était pas très, très long. Et en fait, dans ses premiers romans, l'on trouve de ces éléments dans « If he hollers, let him go ».
C'est le bras et lâche-le.
Là, on trouve des éléments déjà de ce qui va venir plus tard. Et en fait, après, dans ses romans sur Harlem, dans ses petites fables, il en parle, il dit ce qu'il n'avait pas pu dire avant, il dit cette violence de la société, cette violence envers de l'homme blanc envers l'homme noir, mais aussi cette violence des noirs envers les noirs.
Un extrait donc de cette célèbre conférence de 1948 à Chicago, tel qu'il est cité par James Sallis dans sa biographie de Chester Himes.
La vie du noir ne pourra être comprise, pas plus que ses obsessions, ses réactions et ses actions. Il en va de même pour les pulsions sexuelles, la criminalité, les relations maritales, nos quêtes spirituelles, nos ambitions et nos échecs, tant que cette peur n'aura pas été dévoilée en action derrière les façades trompeuses de nos ghettos. Tant que d'autres n'auront pas expérimenté avec nous l'impact de la peur sur notre personnalité. Il ne suffit plus de dire que le noir est la victime d'un mythe stupide. Nous devons affronter la vérité et ses effets sur notre être. Si cette confrontation révèle chez l'individu noir pulsion meurtrière, désir malsain pour les femmes blanches, complexe d'infériorité pathétique, antisémitisme paradoxal, servilité, haine et peur de la haine de soi, ce sont les conséquences de l'oppression sur la personnalité humaine. Ce sont les horreurs quotidiennes, les réalités quotidiennes, les expériences quotidiennes d'une minorité opprimée.
Nombre de livres de Chester Himes relèvent de ce que l'on appelle, Jean-Yves Bochet, la littérature protestataire négro-américaine. Ce sont vraiment des plaidoyers pour la justice et puis l'expression d'une colère sociale, psychologique extrêmement violente. Donc au moins les deux tiers...
Le plus important étant la fin de la primitive.
Voilà, donc ça c'est quand même les deux tiers de l'œuvre de Chester Himes. Mais alors, nous on l'a connu en France
par une biais différent. Voilà, les deux tiers le moins connu. Voilà.
Alors c'est vrai que c'est Correa, Buchet-Chastel qui avait publié La croisade de Lee Gordon, qui est un de ses livres les plus célèbres, un livre justement de violence et d'engagement auprès Black Panthers, on peut le dire. Mais nous, on l'a connu un petit peu par la série noire. C'est vrai que Chester Himes donc est venu s'installer dans les années 50 à Paris. Il y a rejoint une colonie d'auteurs américains, noirs américains, jadis
comme Richard White et James Baldwin,
jadis compté par Michel Fabre dans son livre La Rive Noire. Et il s'est installé là, et puis il a rencontré Marcel Duhamel, et il est devenu un peu à son corps défendant, faut quand même le dire, un auteur de la série noire.
Il est devenu un petit peu à son corps défendant, effectivement, un auteur de la série noire. Et en même temps, c'est ce qui lui a fait un petit peu connaître le succès, puisque Marcel Duhamel, un jour qu'il a rencontré, lui a proposé d'écrire des romans policiers. Il ne savait pas comment faire. Il lui a dit, mais commence, décris une scène et puis tu verras bien, la suite viendra. Et il s'est mis à décrire un Harlem fabuleux, un petit peu surréaliste, comme ça, mélange entre tragédie et comique, avec deux héros dégingandés, qui ne de policiers noirs qui ne savent même pas comment vraiment agir et qui avancent eux-mêmes comme ça d'une histoire fantasmagorique à une autre pour régler leurs problèmes. Les deux héros s'appelant Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, les bien nommés. Et c'est avec la Reine des Pommes que Chester Himes va devenir un tout petit peu plus célèbre et va être enfin reconnu.
Alors James Salis, effectivement, Chester Himes est devenu un peu en traînant les pieds un auteur de romans policiers. Mais alors paradoxalement, il a découvert dans le genre policier une liberté où, tout en conservant l'érotisme, la violence, une espèce de tension, il a accédé à une fantaisie totalement débridée. Et surréaliste, que j'imagine qu'un amateur de poésie contemporaine doit, surréaliste comme vous, James Salis, doit apprécier. Ce sont les fameux romans de Harlem.
Oh, absolutely. You know, as I was responding before, I think that Chester had decided there was no career left. When he came to Paris, I think he had reached the end of his rope or felt that he had. Not that he wasn't writing, because when he came to Europe, he wrote his masterpiece. Which is called The Primitive or
La Femme Primitive.
And it's an absolutely stunning book. I keep saying it's one of the perfect American novels. But he was writing for himself, and he felt that he was not going to be published. He was not going to have readers. At this point, I think he achieved a double liberation. I think he felt liberated because he was out of the repressive atmosphere of the States. And I think he felt liberated because he was free to write whatever he wanted to. He didn't have to worry, since they weren't going to publish it anyway. What difference did it make? At this same point, because of these two liberating factors, I think he found a freedom from the autobiographical material that had increasingly occupied him. He wrote three novels that were very autobiographical, and the third one was almost directly autobiographical. It's the third generation. So I think he really didn't know where to go. He rejected Duhamel's offer initially. Multiple times, according to Chester, and finally agreed to do it, thinking that he would just dash this off and there would be nothing to it, and he would collect his, I think he was getting $1,000, which was quite good money at that point. And it's interesting to note that he didn't even have the detectives in the first novel. He took Marcel Duhamel part of the book to La Sacrée Noire, and he said, "Do you think I should have some detectives in this?" And Marcel said, "Well, it's a policier, so you probably should." And at that point, he wrote in some detectives. What Chester did all his life was improvise, and he wrote the first novel, and he thought, "Yeah, that's okay." And he got some attention; he got an award for it. He saw that there was more he could do with this. And he began trying to see what more he could do with this. Again, like a jazz musician, just finding out what's in there. What can I play off of? And you can see this. If you read the novels in sequence, you can see a development. There's a sure, though somewhat zigzagged, development towards Blind Man with a Pistol, which is the culminating work, actually, of the series. He starts off telling fanciful, colorful stories, much as someone sitting on a porch would be telling a story. The stories get more involved with the society. They get more violent. They get funnier. They get more engaging. He becomes interested in the two detectives, but he also becomes interested in the other characters. And this all sort of funnels down to that final book, which is all about social violence in the States in the 60s, Blind Man with a Pistol. But you can see those elements working their way out of what Chester thought was just I'm just going to write this little story and make some money and move on. He saw that he could do many, I'm sorry, he saw that he could do many of the things he had been doing all along, but in another form and with a lightness of touch that actually made them easier to read and easier to engage people.
Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il n'avait plus aucun espoir, en fait, d'être publié. Et quand il est arrivé à Paris, c'était à une époque de sa vie où il avait désespéré vraiment d'être publié. Il n'écrivait donc plus que pour son plaisir. Il continuait d'écrire, mais uniquement pour son plaisir. Il s'est senti doublement libéré. Il se sentait libre du fait d'être loin des États-Unis, mais aussi du fait qu'il ne cherchait plus vraiment à être publié. Et donc, il a écrit il a intégré des éléments biographiques dans trois de ses romans, dont le dernier est franchement autobiographique. Il a tout d'abord refusé l'offre de Duhamel, et puis il a fini par accepter en se disant que ce n'était rien du tout que d'écrire un petit polar, et il pouvait toucher ses $1,000, ce qui était pas mal à l'époque, et puis en fait ce serait terminé. Au départ, il n'avait même pas mis de détective dans son roman. Après, il a demandé l'avis de Duhamel, qui lui a dit, mais après tout, si tu écris des polars, il vaut mieux mettre des policiers, ça serait une bonne idée de mettre des policiers dans l'histoire. Il a beaucoup improvisé, il a énormément improvisé, et puis après il s'est rendu compte en fait que ce genre de littérature lui permettait d'aller plus loin, de faire ce qu'il cherchait à faire avec une grande liberté. Et en fait il s'est vraiment, on pouvait le comparer à un musicien de jazz, et on voit une évolution dans ses romans. Il raconte des histoires, il raconte tout simplement des histoires, mais l'on voit à travers tous ses romans cette évolution qui va le mener à traiter de la société, de la violence et de, en fait, du caractère comique de certains éléments. Et il ajoute des détectives, il traite de ces détectives, il ajoute d'autres personnages, et tout cela le mène à son dernier roman où il traite franchement cette fois de la société noire des années 60 et de la violence de la société, plutôt de la société américaine des années 60, où il traite vraiment de la violence envers les Noirs à cette époque.
Merci. Donc, tout un univers qu'on peut retrouver dans Chester Himes, Une vie, une biographie de James Salis, publiée aux éditions Rivage. Merci, James Salis, d'avoir été présent parmi nous à Saint-Malo. Merci à Jocelyne Bourbonnière d'avoir traduit vos paroles, et à Jean-Paul Bord d'avoir traduit les textes lu les textes de Chester Himes. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Claire-Martin Duguerre, Daniel Finot, Jean-Yves Bochet, François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour le 20e anniversaire de la mort de Philippe Cadic. Et puis le ciné-club Mauvais Gens de ce soir sur Ciné Classique, c'est le Moulin des Supplices, Luigi Ferroni. Bonsoir à tous.
Some of the brothers got plenty of cash. Tricks on the corner, gonna see to that. Some like to smoke, and some like to blow. Some are even strung out on a $50 Jones. Some are trying to ditch reality by getting so high, only to find out you can never touch the sky, 'cause your roots are in, oh yeah. Every Sunday morning I can hear the old sister say, hallelujah, hallelujah, trust in the Lord, oh yeah. That you hear the prayers, 'cause deep in their soul they believe someday he'll put an end to all this misery that we're having. Oh yeah.
C'était Mauvais Genre. François Angelier recevait l'écrivain américain James Salis dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mai 2002. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.